Il est 19h ou presque.
RKS, S comme sport.
S comme sport.
Et c'est votre rendez-vous tous les mercredis sur RKS 97FM ou sur internet. S comme sport, on parle sport mais pas que, comme à chaque fois vous le savez. On a des invités au top, donc on peut élargir sur le sport puisque c'est un sujet magnifique mais aussi très vague. Et là, notre invité du jour, Simon Gérard, 27 ans, il va se présenter. C'est la deuxième fois qu'il vient parce que la dernière fois, on n'a pas eu assez de temps pour parler d'un sujet, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes dans l'émission de Marie, très actuel, l'avenir du sport de montagne face au réchauffement climatique. Bonsoir Simon.
Faut que tu mettes mon micro.
Bonsoir, j'ai, avec le micro allumé c'est mieux.
Avec le micro allumé c'est mieux, c'est... Bah, bonsoir Fabien.
Présente-toi vite fait comme ça.
Ça fait plaisir de revenir. Déjà.
Exactement.
On est sur une chronique hebdomadaire maintenant.
C'est, voilà, ça, il veut que je le paye, ça, c'est pour ça.
Du coup,
présentation rapide.
Présentation.
Voilà.
Du coup, Simon Gérard, comme tu l'as si bien
mentionné. Je me suis pas trompé, c'est bon.
À la fois sportif amateur, un peu touche à tout, et en même temps, je travaille un peu sur toutes les questions de changement climatique dans une association de recherche qui est le Pôle Alpin Risque Naturel.
Yes.
Basée à Grenoble, sur le campus, et du coup, le but c'est de faire ce qu'on fait, c'est de l'interface recherche action, c'est-à-dire qu'on met en lien les territoires et les chercheurs pour mettre en place des dynamiques de construction pour la gestion des risques naturels.
Clair comme de l'eau de roche. Merci. Simon, on commence dans le vif direct. Le sportif que tu es et que nous sommes, que vous êtes peut-être en nous écoutant, trailer, skieur, est-ce qu'il voit le changement climatique? Est-ce que tu vois le changement climatique quand tu cours, quand tu randonnes ou quand tu skis?
Je pense que toute personne qui va en montagne, même sans obligatoirement être sportif, sans courir, juste en pique-niquant, en mangeant son petit sauce au sommet.
Bien sûr.
Voit les évolutions. Enfin, on peut pas ne pas les voir.
Et si on connaît pas, on ne sait pas.
On le ressent. On ressent tout de suite parce que le changement climatique en montagne, ça va se manifester comment? Effectivement, le point le plus visible, ça va être le recul des glaciers. Ça, tout le monde le voit, il suffit de comparer des photos d'archives. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est le plus parlant qu'on utilise dans les JT, qu'on utilise dans les journaux. La mer de glace en particulier, qui est le plus long glacier français. Pour combien de temps encore, on ne sait pas exactement parce que...
Qui se situe où d'ailleurs ça?
Qui se situe à Chamonix, en Haute-Savoie. Il y a souvent des photos où on voit la mer de glace il y a 20 ans, la mer de glace maintenant. Et la mer de glace, il me semble qu'en 10 ans, elle perd 145 mètres d'épaisseur au niveau du mont Anvers. Enfin, un peu plus de 10 ans, 15 ans peut-être.
D'accord.
Du coup, ça c'est évidemment ce qui est le plus visible. Ensuite, le changement climatique en montagne, il va se manifester par... par des canicules en montagne et pas que, par des canicules de plus en plus importantes. Avant, on avait des vagues de chaleur souvent en juillet-août, on pense aux canicules des débuts des années 2000. Maintenant, le phénomène il va se généraliser, on va avoir des canicules qui risquent de s'étendre, qui vont être permanentes. Du coup, ça va plus être des vagues de chaleur temporaires, mais c'est avec des vagues de chaleur qui vont rester sur tout l'été. Et elles vont de plus en plus s'étendre pour arriver sûrement entre mai et septembre, des canicules illimitées. Quoi.
Ah oui, ça c'est une grande période en effet. Mais alors là, t'es en train un peu de nous faire peur, parce que comment ça, même en montagne, il va faire très très chaud, il y aura de la canicule en montagne. Je pensais qu'on allait justement chercher la fraîcheur en montagne. En tout cas, c'est ce qu'on fait actuellement.
De toute façon, c'est évident que plus on va monter en altitude, plus on va perdre des degrés. On perd 0,5 degrés par 100 mètres d'altitude de gagner en moyenne. Mais la température, elle va augmenter partout. Du coup, que ce soit en plaine ou en montagne, évidemment, montagne, on se sentira moins, il fera toujours moins chaud. Mais après, il y a d'autres effets qui vont jouer. Par exemple, en ville, va y avoir l'urbanisation et le béton qui va renvoyer la chaleur, qui va créer des zones de chaleur de plus en plus importantes. D'ailleurs, en ville, on voit souvent les îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de verdure pour emmagasiner la chaleur, et c'est le béton, il fait office de miroir en fait, et du coup il fait de plus en plus chaud en ville. Les villes, elles vont devenir
comme on voit d'ailleurs aujourd'hui à Grenoble, on voyait la pollution grenobloise.
Après, on voit la pollution grenobloise. Après, ce qui l'effet sournois un peu dans une certaine mesure. On va pas relativiser, faut relativiser. Mais avant, il y avait beaucoup d'inversions de température à Grenoble. Du coup, la pollution était bloquée en bas. Maintenant, comme il y a moins d'inversion de température, c'est-à-dire qu'il fait plus frais en haut qu'en bas, et l'air il a tendance à monter, donc il y a un peu moins de pollution à cause de ça. Mais ça, c'est une autre histoire.
Ça, c'est voilà.
Et du coup, pour revenir au sport.
Est-ce qu'on voit le changement climatique, le réchauffement climatique en montagne?
Oui, je pense que les skieurs, c'est sûr qu'ils le voient.
Comment ça? Alors explique-nous. Parce qu'il y a toujours de la neige. J'entends toujours que les stations sont ouvertes, que c'est toujours là.
Effectivement, mais
je fais pas le sceptique parce que le réchauffement est là, clairement. Mais il y en a, c'est même sûr qui.
D'ailleurs, c'est Gavin Neige en ce moment à Gèves dans le Vercors. Le réchauffement climatique n'existe clairement pas.
Voilà. Donc vas-y, parle-nous un peu
ce matin encore. Au niveau des skis, la quantité de précipitation qui tombe sur l'année. Elle varie pas. Enfin, on n'a pas encore assez de recul pour avoir l'influence sur le niveau de précipitation global. Du coup, on a toujours un niveau de précipitation qui est stable sur l'année. Enfin, qui est stable en termes de quantité. Hein. Ce qui va changer, c'est...
Limite plus neige ?
Avant ça, en fait, ce qui va changer, c'est le moment où vont tomber les précipitations. C'est-à-dire que... avant, elles étaient réparties d'une certaine manière. Et maintenant, on va avoir des épisodes extrêmes. À la fois de sécheresse, du coup de périodes sans précipitation, et à la fois les périodes de précipitation, elles vont être beaucoup plus importantes. Du coup, c'est par exemple les deux tempêtes qui sont passées en janvier 2018. Beaucoup de gens doivent s'en souvenir. En janvier 2018, du coup, il y a deux tempêtes. Il y a Carmen et Eleanor qui sont arrivées sur la France. Et ça s'est traduit par énormément de précipitations. Par exemple, à Bonneval-sur-Arc, en seulement 12 jours, il y a 370 mm de précipitations qui ont été recensées. C'est-à-dire que
hallucinant.
Il y a quasiment autant que sur une année.
Ou
presque. D'ailleurs, en janvier 2018, les cumuls de neige ont été records. Enfin, sur l'année 2018, il y a eu des cumuls de neige assez incroyables.
Ah, donc les sceptiques, là, c'est de l'eau au moulin.
Là, c'est clairement. Mais c'est des événements extrêmes comme ça qui vont arriver, suivis d'événements de chaleur. Et en fait, bon, on reviendra sur janvier 2018 plus tard, mais ce qui se passe sur une année, c'est que le fait qu'il y ait des modifications des températures, surtout, c'est ce qui va influencer la limite plus neige. Du coup, on va avoir autant de précipitations, on va avoir des cumuls neigeux normaux, sauf qu'avec l'alternance des températures qui vont faire un peu le yo-yo, la neige, elle n'aura pas le temps de s'accumuler de manière durable. Du coup, il va y avoir une grosse chute de neige, tout va fondre, une autre grosse chute de neige, tout va fondre, et il n'y aura plus d'hiver complet, en fait, comme on a pu... Enfin, il n'y aura plus, entre guillemets, hein, parce qu'on ne peut pas être sûr. Il y aura de moins en moins d'hivers complets comme on a pu connaître à une époque, et on va plus avoir des alternances de périodes chaud-froid. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on est plus ou moins en train de vivre en ce moment, avec beaucoup de chutes de neige la semaine dernière, et là, on annonce encore un redout, peut-être que ça va fondre. Après, ce à quoi il faut faire attention, c'est à tout mettre sur le dos du changement climatique, du réchauffement climatique, parce que la météo, le climat, c'est une science longue. Il faut des longues périodes pour analyser. Il faut des périodes d'au moins 30 ans pour avoir un recul suffisant pour pouvoir détecter des tendances. Du coup, oui, il y a un réchauffement climatique. Oui, les températures augmentent. Oui, il va y avoir des vagues de chaleur de plus en plus importantes. Mais autant, il y a déjà eu des années sèches dans le passé. En 80, en 90, en 70, il y a déjà eu des années où il n'y avait quasiment pas de neige. Du coup, on ne peut pas dire chaque fois qu'il fait chaud ou chaque fois qu'il y a une période de redout comme ça, c'est le réchauffement climatique. On peut dire que dans l'ensemble, sur plusieurs années, le réchauffement climatique influe de manière certaine. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Toutes les sciences le disent. Mais on ne peut pas dire ce week-end il fait chaud, saloperie de réchauffement climatique, si je peux me permettre.
Ah oui, mais vas-y, de toute façon, c'est fini, on est en direct, donc voilà.
si j'ai pu me permettre. Et voilà. Et du coup, ce que je disais, au niveau des skieurs et au niveau des compétiteurs en particulier, c'est assez incroyable en fait ce qui se passe parce que.
Alors attends, déjà, on va clôturer la question de est-ce qu'on le voit le changement climatique en montagne, que ce soit en été ou en hiver. Donc la réponse est clairement oui. Voilà, qu'on soit aguerri ou pas.
Pour reprendre un peu sur l'été, en hiver on le voit à cause de ces histoires de neige, à cause de ces histoires de pluie sur neige, ça a modifié le régime des avalanches où on va avoir des avalanches plus humides parce que la pluie et la neige vont se mêler. C'est pas parce qu'il y a un recul, il y a une plus grosse fonte de la neige qu'il va y avoir moins d'avalanches. Au contraire, le régime des avalanches va évoluer. Et du coup, on va avoir des avalanches humides qui vont aller beaucoup plus loin puisqu'elles seront plus liquides en fait. Du coup, c'est un nouvel aléa à prendre en compte dans la gestion des risques. Et en été, ce qui va se passer, notamment en montagne, c'est le recul des glaciers. Il va jouer, mais il va jouer sur la déstabilisation en fait. De toutes les parois, là, le recul des glaciers et la fonte du permafrost. Du coup, le permafrost, c'est un.
Alors, explique le permafrost.
On reprend. pour prendre la définition exacte.
Alors, il sort le bouquin parce qu'il a tout préparé, attention.
Donc, le permafrost, c'est un état thermique. Hein, et c'est quand le sol ne dégèle jamais pendant au moins 2 années d'affilée. C'est le pergélisol. Et du coup, le permafrost, en montagne, il stabilise les parois. Et le fait que ce permafrost dégèle, les parois tombent. Et
du coup,
c'est double effet. Il y a les glaciers qui vont reculer. En reculant les glaciers, on les voit, les vallées glaciaires, c'est des vallées encaissées qui sont érodées par le glacier. Le glacier, en reculant, il va libérer les parois qui étaient jusqu'alors maintenues par les glaciers. Du coup, ça va tomber. Il va y avoir des...
Ah, donc la montagne, en plus,
se casse la gueule, la montagne s'écroule. À côté de ça, il y a le permafrost qui dégèle. La montagne va d'autant plus s'écrouler. Et ça, on le voit beaucoup plus, notamment en alpinisme, l'été, avec une modification du timing des courses. Toutes les courses qu'avant on pouvait faire en juillet, août, maintenant elles deviennent de plus en plus dangereuses, et ça les guides le ressentent très bien, et même n'importe quel pratiquant, mais en particulier les guides, puisqu'ils dépendent économiquement de la montagne. Il y a plein de courses qui sont plus faisables en août, avec les montagnes qui s'écroulent. Pour prendre la course la plus célèbre, la voie normale du Mont Blanc, il y a le couloir du Goûter. C'est un couloir à traverser. Qui est sous le dôme du Goûter. À traverser, ça doit faire 50-60 mètres de long, sauf que c'est un couloir qui est théoriquement tenu par ce pergélisol, enfin, qui est tenu par la glace en tout cas, parce que c'est pas obligatoirement de permafrost. Et du coup, avant, on pouvait le traverser tôt le matin en se disant c'est bon, les cailloux y tiennent, c'est gelé la nuit, ça regèle, il n'y a aucun risque qu'il tombe. Maintenant, comme souvent l'isotherme zéro, il s'envole au niveau de la Lune, les cailloux ne gèlent plus. Et du coup, il y a des chutes de cailloux incessantes. Et comme c'est un des itinéraires les plus pratiqués, puisque c'est le Mont Blanc, le toit de l'Europe, et que techniquement, c'est pas le plus difficile, même s'il faut être
aguerri pour
y aller.
Voilà.
C'est pas une balade de santé du tout. Oui. Il y a vraiment un gros risque.
Donc ça modifie pas mal de choses. C'est vrai que c'est un risque systémique. Il y a tout qui bouge et qui va faire bouger l'économie, qui l'a déjà fait bouger, du coup, comme on a pu en parler rapidement. Et on va s'étendre aussi sur d'autres sujets, puisque ça a fait la une il y a quelques temps de ça, à l'équipe de France qui s'entraînent dans des endroits, pas en France du coup, pour le ski, pour...
pas que les équipes de France d'ailleurs.
Exactement, hein, bien sûr.
Toutes les équipes, mais oui.
J'essaye de faire local.
Ouais, mais quand on tape sur les gens, il faut essayer de taper sur
tout le monde.
Aussi.
Voilà, il en a pour tout le monde aujourd'hui, donc voilà, non, si vous débarquez à l'instant sur RKS, bienvenue.
C'est assez rigolo, ça, en ski ça se voit plus, mais on s'entraîne, pour être compétiteur en ski, il faut s'entraîner toute l'année.
Enfin, donc, ouais, bien sûr. Donc ils allaient à Tignes sur le glacier.
Ils allaient par exemple à Tignes sur le glacier. Le glacier, maintenant, il recule, il y a moins de précipitations neigeuses, et du coup, les crevasses sont de plus en plus visibles, les cailloux s'écroulent, et du coup, Tignes, c'est de moins en moins praticable, il y a quasiment plus de glaciers, il y a plus de stock de neige. Avant, on pouvait quasiment skier toute l'année dessus, maintenant, ils étaient obligés, l'année dernière, ils n'ont pas ouvert. Cette année, ils ont ouvert en retard, il me semble, à confirmer. Mais bon, en tout cas, c'est un peu le paradoxe du sportif qui dit aimer la montagne, et qui aime la montagne, hein, c'est pas que du bullshit, mais qui, à côté de ça, va s'entraîner à Tignes sur un glacier l'été. Skier en été, c'est une aberration en soi. Hein, et maintenant que Tignes est fermé, ou que Tignes, c'est plus possible parce qu'on skie soit sur de la glace vive, ça devient dingue. Ils vont s'entraîner ailleurs. Ils vont s'entraîner où ? Ils vont s'entraîner soit dans des tunnels réfrigérés.
Attention, il va être méchant.
Soit ils vont s'entraîner... Typiquement, il y a des équipes de ski alpin de certains pays que je ne citerai pas, mais qui, par exemple, est en train d'essayer de quitter l'Union européenne en ce moment.
Politique, c'est tout ce soir.
Qui sont allés s'entraîner à Dubaï cet été.
Alors, c'est vrai que Dubaï et ski, ça devrait jamais être dans la même phrase. Et pourtant.
À Dubaï, ils ont fait quoi ? Ils ont créé un dôme et mis des pistes de ski. Les pistes de ski.
Mais parce qu'ils ont l'argent.
Il fait moins 10 à l'intérieur, dehors, il fait 40. Mais c'est exactement ce qui s'est passé sur les mondiaux d'athlétisme il n'y a pas longtemps.
Oui, j'ai vu ça.
À Doha, mais c'était n'importe quoi.
Un stade ouvert.
Ou à l'intérieur du stade, il faisait 22 degrés, à l'intérieur, il faisait 40 degrés. Il y a un moment, là, on n'est plus sur du ski, on est sur de l'athlète, mais il y a un problème complètement... Il faut arrêter à tout prix de...
Ils veulent développer le tourisme après le pétrole aussi, c'est pour ça.
Mais il y a de l'argent, mais c'est...
Ils veulent être un pays sportif alors qu'ils n'ont pas
C'est une aberration.
La culture, ils n'ont pas le terrain.
Concrètement, au niveau du changement climatique, on a la tête dans le mur, on continue de taper dedans.
Et mais comment changer ? On en parlera après.
On en parlera après. Et du coup, bon, il y a les skieurs du coup qui font ça, mais à côté de ça, les trailers ou les pratiquants de la montagne, les grimpeurs aussi. Hein, enfin, il y a aussi le paradoxe, les meilleurs au monde. Sur les réseaux sociaux, ils mettent des hashtags I love nature, ils mettent des
là,
hashtags
il veut pas dire de nom, là.
préservons la nature, j'aime être en montagne, la montagne me ressource, c'est mon élément. À côté de ça, ils font 50 voyages par an pour aller faire des courses à l'autre bout du monde ou des compétitions. Et il y a un moment, c'est des messages complètement opposés. Et là, pour le coup, c'est un peu de l'hypocrisie parce que oui, certes, il faut qu'ils gagnent leur vie en faisant de la compétition. Je comprends très bien.
Oui, de la communication aussi, beaucoup.
Ça, beaucoup de communication, mais dire, enfin.
Après,
où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Est-ce qu'on peut continuer alors que on est clairement dans la merde jusqu'à la racine des cheveux.
Et voilà, ça y est, ça commence.
Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme on avait vécu avant?
Non, ça on sait que non. Enfin, ça on sait que non.
Et prendre l'avion, mais c'est ce qui est drôle, c'est que sûrement moi le premier, mais on a un discours où on dit bah voilà, le changement climatique c'est horrible. Je suis contre, j'agis, je vais trier mes déchets. Je vais faire un compost. Alors là, j'ai fait un compost, je suis bien là.
J'ai sauvé la terre.
J'ai sauvé la terre. Bon allez, j'ai le droit d'aller me payer un petit week-end en avion en Norvège.
Ouais, mais on en revient à ce que tu disais sur les mondiaux d'athlétisme
à Doha.
Parce que ils ont l'argent, du coup ils ont fait venir tout le monde. Nous, même avec un SMIC, maintenant tu peux quand même partir en Espagne pour 60 balles, 80 balles, un billet.
Ça coûte même moins cher que
voilà. Voilà, donc parce que t'as l'argent, parce qu'on nous donne les moyens de le faire, les gens vont le faire. Et ça,
et d'ailleurs,
ça
le trafic aérien, il augmente. Enfin,
c'est triste.
Il est en augmentation. Enfin, on est sur ce point.
Ah, je croyais que ça allait diminuer avec l'histoire des Suédois qui ont la honte de prendre l'avion.
Non, mais les Suédois, c'est un tout petit pays.
Ouais, ben ça déborde pas chez nous, malheureusement.
Puis, maintenant, c'est juste qu'ils font plus des selfies dans l'avion, quoi, c'est tout.
Ah ouais, voilà. Non, mais après, voilà, il faut se dire que parce qu'on peut.
On doit.
Est-ce qu'on voilà, c'est
vous
ça.
Vous avez 3 heures.
Non mais voilà, mais c'est ça parce que on nous donne tellement beaucoup d'opportunités. Alors tu dis, on pourra pas vivre comme on l'a fait jusqu'à présent. Oui, mais pour l'instant, rien ne change. Bien sûr, ça change dans beaucoup d'autres pays, mais chez nous, on ne voit pas
non,
trop.
Non, je dirais pas que rien ne change. Il y a énormément de choses qui changent. Il y a une mobilisation. Il y a une modification des consciences qui est en train de s'opérer. Et ça, c'est sûr.
Alors, est-ce que tu le vois en cours ? Est-ce qu'il y a moins de gadgets montres connectées ? Est-ce qu'il y a moins de chaussures qui viennent de l'autre bout du monde ? Est-ce qu'il
alors,
y a moins
alors,
de...
Alors.
Hey, je deviens taquin, là, c'est obligé.
Bah, les courses, oui, il y a des changements. Par exemple, il y a de moins en moins de gobelets en plastique sur les courses. Il y a des organisateurs qui tendent de plus en plus à donner de la nourriture et plus des t-shirts... dégueulasse à la fin des courses
les goodies, non,
faut qu'on se le dise quand même, avoir à manger c'est toujours mieux qu'avoir un t-shirt. Des t-shirts on en a
assez,
en avoir un c'est bon.
Oui,
avoir
assez,
à manger on en a jamais assez. C'est la base,
c'est... Oui, plutôt se mettre en plus il dit ça mais
rien,
ça va.
Rien ne remplace, t'es gentil, rien ne remplace le saucisson.
Non mais après donc c'est vrai que dans l'événementiel pour être dedans clairement, on a quand même des organisateurs qui font de plus en plus attention, pas à tout le monde ça c'est clair, mais je peux en citer quelques-uns, les Swimrunman France qui ont refusé clairement un partenariat avec une grande marque d'eau en bouteille parce qu'ils leur ont dit on vous les donne pour vos événements sportifs, donc ça c'est génial, il n'y a plus qu'à mettre les palettes d'eau en bouteille. Ils ont dit bah non, nous c'est jerrycan d'eau et en plus gobelet, flasque porté par les participants pour venir boire au ravitaillement. Et ça je trouve ça magnifique et très courageux, et je pense qu'il va falloir du courage dans tous les domaines pour la
boire,
suite
c'est tricher.
De l'eau, attention, bien sûr. Évidemment. Donc bien sûr qu'il faut que les coureurs, les coureuses se mettent à changer leur comportement, mais les organisateurs,
mais
oui.
Ce qui est fou à côté de ça, c'est qu'il y a vraiment une dynamique double. Tu as beaucoup de personnes, ça je le pense vraiment, hein, qui font des efforts, qui essayent d'aller dans ce sens-là. Notamment au niveau des collectivités, on voit de plus en plus, bah, ils sont un peu obligés aussi économiquement, mais se diversifier l'offre de tourisme. Ils misent plus tout sur les sports d'hiver.
Ils ont compris, ouais, c'est vrai.
Il y a une offre VTT qui se développe.
Beaucoup, oui.
Il y a une offre rando, une offre découverte de la nature qui se développe énormément. Et à côté de ça, il y a des stations qui continuent à faire marcher les canons à neige.
Et pourquoi ?
Continuent la neige de culture, qui continuent à vouloir... créer de plus en plus de téléphériques qui partent de plus en plus bas, enfin téléphériques, télésièges, télécabines, je sais pas, le genre de truc de feignasse.
Tout ce qui est
monter,
télé.
Quoi. Tout ce qui est télé, tout ce qui est...
Non, mais, alors oui, mais alors ça, je vais te répondre sans... Voilà, je suis pas expert, mais ce sont des investissements, et tu le sais toi aussi, qui se remboursent très rapidement. Donc eux, ils s'en moquent, j'ai envie de dire.
Ça se rembourse très rapidement ou pas?
20 ans, c'est ça.
Bah oui, mais 20 ans.
Mais pour eux, c'est rien, 20 ans.
Oui, mais pour eux, c'est rien, 20 ans. Mais quand tu construis un télésiège à 1000 mètres, à 1000, 1500 mètres, 20 ans, tu les auras pas. Hein. 20 ans.
Mais eux, ils pensent que si. Hein. Eux, ils ont signé pour que oui. Donc,
ils signent pour que oui. En
après,
fait,
ils font des lacs, en fait, ils font de la rétention d'autres choses.
Ils annoncent 20 ans, mais c'est de l'investissement à très court terme. Parce que clairement, la neige, elle va de plus en plus se raréfier. Et c'est les stations au-dessus de 2000-2500 mètres qui vont perdurer. Toutes les autres, elles sont en train de disparaître. Enfin, ça, faut pas se...
Donc, elles vont se réinventer, forcément.
Elles vont être obligatoirement. Obligé de se réinventer.
Ouais, c'est très insisté là, sur le sujet.
De se réinventer. Mais c'est comme la neige de culture. Maintenant, on essaie.
Alors, ça, pourquoi c'est pas bien?
La neige de culture, c'est pas bien. Parce que.
Retenue d'eau, imperméabilisation des sols, catastrophe.
La neige de culture, déjà, oui, c'est. L'argument pour les canons à neige, c'est. On puise l'eau des sols, on la refoue en neige et ça retourne au sol.
Et ils pensent que.
Sauf que, en fait, ça modifie le cycle de l'eau.
De l'eau, oui.
Et ça induit un stress énorme sur le milieu naturel puisque ça modifie complètement la manière dont les écosystèmes survivent.
Etc. Alors peut-être qu'ils pensent que c'est une opération nulle, tu vois, vu qu'ils prennent l'eau mais ils la remettent.
Ils peuvent pas penser ça.
Il y a
toutes les études qui disent que c'est une opération nulle. Après, oui, on peut toujours se voiler la face. À partir du moment où il y a des sous en jeu, les gens ils s'en foutent.
Mais
à côté de ça, il y a la neige de conservation. Enfin, là, on parlait des canons à neige, du coup. Je confonds peut-être les termes. Il y a la neige qu'on garde l'hiver, là, en mettant de la sciure dessus et qu'on réétale au printemps pour avoir une bande de neige.
J'avais oublié cette histoire.
Ça, en soi, c'est pas très gênant, à part que, bon, déjà, ça coûte énormément.
Il faut des bulldozers quand même, camions pour.
Il faut des bulldozers pour l'étaler, il faut de la sciure pour garder la neige.
Ouais.
Et puis, enfin, quand on dit vivre dans un milieu naturel avec. Quel sens ça a d'avoir des bandes de neige au milieu, enfin une bande de neige dégueu en plus, hein, parce que c'est à skier, c'est dégueu. Hein,
c'est vrai.
Au milieu d'un champ avec des pâquerettes.
Regarde ce qui se passe en Afrique du Sud. Il y a une seule station de ski dans un petit bled en Afrique du Sud, et c'est exactement ce que tu dis. Il y a une bande de neige,
oui,
la terre autour.
Est-ce qu'on a besoin de skier?
Mais ça cartonne.
Ça cartonne, mais voilà.
C'est le problème. Je pense que le plus gros des mots, c'est le marketing au final. C'est parce que.
C'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre.
Ouais, ça devient tendance de.
Mais ça doit. Enfin, c'est à nous de pas faire ça. Enfin, c'est à nous de d'attendre qu'il y ait de la vraie neige qui tombe du ciel pour aller. Merci. La vraie neige qui tombe du ciel pour aller skier dessus et pas d'aller se précipiter sur une bande de neige pourrie, parce que tant qu'on le fait,
comme dirait l'autre, tant qu'on achète, ils vont continuer d'en faire. Il suffirait qu'on n'achète plus pour que ça se vende plus.
C'est beau. Je crois qu'on est en train de changer le monde.
Justement, on en parlera après. J'ai quelque chose pour changer le monde juste en fin d'émission. Pour l'instant, si vous débarquez à l'instant, vous êtes sur RKS. On est en direct dans l'émission S comme sport. Et le thème du jour, c'est l'avenir des sports de montagne, mais pas que. Face au réchauffement climatique. Petite pause avec Serge Gainsbourg que je vous ai préparé. C'est No Comment sur RKS.
Si j'ai quoi? Affirmatif. Et quoi d'autre? No comment. Si je baise? Affirmatif. Quoi? Des noms? No comment. Des salopes? Affirmatif. Des actrices? No comment. Des gamines? Affirmatif. De quel âge? J'ai quoi? Affirmatif. Et quoi d'autre? Si je bande, affirmatif. Pour qui ça? Pour des études, affirmatif. Et qui d'autre? Brune, blonde, affirmatif. Et rouquine. Affirmatif. Et quoi d'autre? Si j'assure, affirmatif. Quoi? Tout seul? La technique? Affirmatif. Du doigté? Self-control? Affirmatif. Comment ça? Et quoi d'autre? Si j'aime ça. Affirmatif. Quel côté? Peu importe l'affirmatif. Ce que je peux faire. Obsédé. Affirmatif. Sexuel. Quoi d'autre? Si j'assure, affirmatif. Quoi, tout seul? La technique, affirmatif. Du doigté. Self-control, affirmatif. Comment ça? Affirmatif. Et quoi d'autre? Si j'aime ça. Affirmatif. Quel côté? Peu importe, affirmatif. Ce que je préfère. Obsédé, affirmatif, sexuel.
J'adore Serge Gainsbourg, No Comment à l'instant sur RKS.
RKS, S comme sport.
S comme sport.
Et S comme sport, ça continue. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant. On est en direct et on parle.
Merci Sergio.
Et voilà, c'est mon invité, ça y est, qui devient fou. On parle de l'avenir du sport de montagne face au réchauffement climatique. Et bien, on va commencer avec ça, si vous venez à l'instant nous rejoindre. Le changement climatique, le réchauffement climatique, c'est quoi, Simon? Fais-nous un petit récap. À y prendre fort inspiration.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous orienter vers le dernier rapport du GIEC, Océan et Cryosphère.
Pourquoi tu nous fais peur d'entrée de jeu comme ça?
GIEC, ça te fait peur? C'est pas un
bon
mot.
Ah ben, ouais.
C'est... Non, mais c'est... Non, mais du coup, vous allez lire le rapport, on revoit la semaine prochaine.
Non, parce qu'ils seront tous partis ailleurs, ouais. Là, ils arrêtent tout. Hein.
Oui,
si vraiment...
Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a aucun endroit qui est parti.
On prend un SpaceX, Mars, direct. Mais je crois qu'on ne vit pas sur Mars.
Je sais pas, ça dépend.
pas encore. Bref, on divague. Sincèrement, le GIEC, si on le lisait, comme tu dis, on n'aurait pas ce comportement et demain, on n'irait peut-être pas au boulot, d'ailleurs. GIEC, il dit quoi, le dernier rapport?
Le GIEC, il dit quoi? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, déjà, c'est que, il faut le redire, hein, mais le réchauffement climatique, le changement climatique est d'origine anthropique. C'est-à-dire que c'est à cause de nous, à cause de l'action des hommes, que ça arrive. Sur l'échelle des temps, il y a déjà eu des périodes où il faisait plus chaud que maintenant, il y a déjà eu des périodes où il faisait bien moins froid, il y a déjà eu des périodes où il n'y avait plus aucun glacier, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que...
La vitesse.
C'est... Et oui, mon cher Laurent, la vitesse.
Un seul mot, la vitesse.
La vitesse.
C'est trop rapide.
Ça s'est fait sur des millions d'années, et ça a été une évolution naturelle en quelque sorte. En totale sorte.
Mais c'est surtout
ce qu'il faut savoir, c'est que les changements, ils interviennent depuis les années 85, depuis la révolution, un peu avant du coup, la révolution industrielle. On voit une augmentation énorme des températures.
1985.
La révolution industrielle, et ensuite, à partir de 1985, on voit sur les graphiques des courbes la température augmenter complètement. Et par exemple, sur les Alpes du Nord, on a la température moyenne entre 1961 et 1990, du coup ça donne une référence. Par rapport à cette référence, c'est par rapport à cette référence qu'on parle des plus 2 degrés. Des plus 2 degrés de moyenne. Hein.
Voilà.
Quand on parle de moyenne, ça veut dire qu'il y a des endroits où ça va être plus de degrés, il y a des endroits où ça va être moins de plus 2 degrés. Les montagnes, c'est des milieux très sensibles, du coup elles vont plus subir qu'une plaine au niveau des changements. Tout va être exacerbé. Actuellement, dans les Alpes, on est déjà à plus 3 degrés.
Et voilà, bonne nouvelle.
Chaque année, on enregistre l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau des écarts de température. En 2018, on était à plus 3 degrés par rapport à la moyenne mesurée entre 1961 et 1990. Enfin, quand on y pense, c'est dingue. Et là, et du coup, quand on parle du plus 1,5 degré, plus 2 degrés pour 2050, on y est déjà. On y est déjà. Les rapports du GIEC, il y en a plusieurs. Enfin, les prévisions du GIEC, les scénarios, il y en a plusieurs.
Et ils ont été le plus sages sur les.
Le moins catastrophiste, le plus délirant du coup, de plus de degrés, ce serait on stabilise maintenant. Sauf que même si aujourd'hui toutes les émissions s'arrêtaient. Ouais. On stabiliserait pas. Si aujourd'hui tout se stabilisait, qu'on ne produisait plus rien, qu'on avait un bilan exactement zéro,
il y a l'inertie.
Les températures continueraient d'augmenter au moins jusqu'en 2050. Maintenant, le scénario le plus catastrophique du GIEC, il parle de plus 8,5 degrés de moyenne en 2100.
Ce qui est énorme.
8,5. Enfin, là on n'y est pas. Hein, c'est le plus catastrophique. Au milieu, il y en a d'autres. Pour l'instant, on est plus sur du plus 5 degrés 2100.
Ouais, mais il disait du plus 2 parce qu'ils ont voulu être, ben, le GIEC ou non, mais d'autres scientifiques, un peu, tu sais, pas trop alarmistes. Mais
c'est,
en fait,
c'est pas une question d'être alarmiste ou pas. C'est qu'à un moment, les scénarios, ils donnaient le plus 2. Sauf que, vu les circonstances qui ont évolué, bah, maintenant, on l'a dépassé, le scénario. Mais c'est là pour le coup, dire c'est pas un scénario qui ne voulait pas alarmiste. C'était le scénario possible. Mais il faut le remettre dans un contexte. C'est le scénario si on arrive à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, si on arrive à gérer la chose. Si on n'arrive pas à gérer la chose, pour l'instant, globalement, si on arrive à un peu gérer, mais pas trop, on est sur du plus 5. Si on continue comme maintenant, à s'en battre les cojones.
Ah, on est en direct, je te le rappelle, j'ai pas de bouton de censure.
C'est pour ça que je l'ai dit en espagnol.
Ah, puis, d'accord.
Je suis tapé l'accent, tu vois.
Non, mais parfait.
Mais j'ai eu une très bonne prof d'espagnol.
Et
on arrive à plus 8,5 degrés en 2100. Après, quand on parle de 2050...
Et on en est capable, parce qu'on est vraiment bête.
Ouais, on est vraiment, ouais, pour le coup, ouais. Quand on parle de 2050-2100, c'est pas une échéance, hein, c'est pas pour l'instant ça stabilise et 2050, bim.
Ah ouais,
c'est, ça continue d'augmenter petit à petit. 2050, c'est une étape, mais faut pas voir ça comme jusqu'en 2050, on est tranquille. C'est qu'on n'est pas du tout tranquille.
Dormez tranquille jusqu'en 2100, dit Jean-Marc Jancovici. Je vous invite à lire le livre.
Tu me coupes ?
Ah oui, bah, désolé.
T'as cru que t'étais dans ton émission, quoi.
Il y a des sujets qui énervent et là, il est énervé.
Mais il a raison. Et du coup, typiquement le réchauffement climatique en montagne, du coup. On va prendre un exemple concret. Mon cher Fabien.
Ah ben, j'espère.
Alors, le refuge des écrins, dans les écrins. Refuge du promontoire.
D'accord.
Du coup, situé à 3100 mètres d'altitude, sous la Meije. Il a changé de gardien récemment, mais avant, c'était Freddy Meignan, du coup, qui est maintenant directeur du Mountain Wilderness, qui était d'ailleurs, maintenant, il tient le bar La Gélinotte en Belden. Très bonne bière locale.
Ah, voilà,
tergiversation. Voilà. Du coup, pour revenir, en 2018, du coup, il avait son petit thermomètre et chaque matin, il faisait des relevés de température qu'il notait pour lui, quoi, mais aussi pour avoir des courbes. C'est toujours utile d'avoir des relevés d'informations longues. Je rappelle que le refuge est situé à 3100 mètres d'altitude. Entre le 7 juin et le 31 août 2018, il y a eu seulement que deux relevés négatifs au matin. C'est-à-dire seulement deux fois entre le début juin et fin août, il y a eu des températures négatives vers 6 heures du matin. Parce qu'avant que les... Du coup, c'est dingue. Enfin, yes. 3100 mètres d'altitude en 2018. Et ce que je disais tout à l'heure, pour revenir sur les événements de janvier 2018, du coup... 2018, c'est une année mais de contraste, mais absolument dingue. Il y a eu les tempêtes Eleanor et Carmen arrivent en janvier, hop, plein de neige, plein de précipitations. En haute montagne, ça fait des cumuls records de neige. En moyenne montagne, bon, on y reviendra après, mais ça fait des aléas énormes et qui se sont transformés en risques à gérer pour les territoires. Sauf que cette neige, du coup, en 2018, on s'est dit, ah, là, c'est bon, c'est gavé de neige, on est à l'aise pour tout l'été, les glaciers vont réaugmenter. On va pouvoir skier, mais en mai, en juin, en août, en septembre, on sera encore en train de skier. Que dalle. Parce qu'il y a eu une telle canicule l'été, puisqu'on rappelle que c'était l'année la plus chaude jamais enregistrée, que tout a fondu. Et ça s'est fait, mais en l'espace de 3 semaines. En mai, le 10 mai, il y avait encore, mais gavé de neige partout. Un mois plus tard, c'était la disette, comme l'année d'avant, en 2017, où pour le coup, on a eu une année avec un stress hydrique énorme et un déficit hydrique énorme. Et du coup, c'est ce genre de contraste qui va arriver de plus en plus. On va avoir des cumuls de neige dingues. Après, hop, il fait chaud, on se retrouve en t-shirt cul nu au Mont Blanc, et hop, tout fond. Et c'est fou. Et du coup, si en montagne, il y a eu des cumuls de neige énormes comme ça, comme ça.
Le mec qui se bloque. Ça, c'est clair.
Et ben, en moyenne montagne, ce qui s'est passé, c'est que comme ce que je disais tout à l'heure, il y a des augmentations et des baisses de température qui font yo-yo, les cumuls de neige, ils sont transformés en de la neige, de la pluie, de la neige, de la pluie. Il y a des nouveaux événements qui sont apparus, du coup, les avalanches humides, du coup, composées à la fois de neige et d'eau, qui glissent plus loin, qui entraînent de nouveaux types de dégâts, mais aussi beaucoup de pluie, du coup, des glissements de terrain, des laves torrentielles, c'est-à-dire un mélange de boue et d'eau qui crée une lave. C'est quelque chose de quasiment solide, mais qui transporte des blocs énormes, et c'est hyper dangereux. Il y a eu des glissements de terrain, il y a eu des crues, et ça fait que les territoires de moyenne montagne, ils se sont retrouvés à avoir un taux de précipitation record en un temps absolument très court, puisque c'était en 12 jours, Bonne Vague, 370 mm de précipitation. Mais c'était la Savoie, ils étaient, mais la Haute-Savoie et la Savoie, ils étaient, mais sous l'eau, au sens propre, comme au sens figuré. Oh, t'as vu un peu? Et du coup, il y a eu des coupures de route, il y a eu des glissements de terrain, il y a eu des chutes de blocs, ça déstabilisait tout. Autant te dire que toutes les routes étaient fermées, et ça a coûté des thunes parce que les territoires, ils ne sont pas capables, à l'heure actuelle, de gérer une augmentation comme ça des risques. Enfin, ils sont pas capables. Ils sont capables, mais ils ont jamais été confrontés à des choses comme ça, à des glissements de terrain dans tous les sens, à des chutes de blocs, à des avalanches, et surtout à ce que tout se produise en même temps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, quand on regarde sur la Savoie les événements de janvier 2018, il y a eu aucun événement dingue. Il y a eu aucun glissement de terrain. On ne compte pas les avalanches. Il y a eu aucun glissement de terrain d'une ampleur phénoménale. Aucun
qui buzz.
C'est ça. Mais sauf qu'il y a eu un nombre d'événements absolument fous. Et c'est la récurrence et l'augmentation de ces petits événements qui fait que l'ensemble de l'événement est particulièrement remarquable.
Ouais, bien sûr. Okay. Alors c'est bien, tu as fait le lien avec les deux questions que j'avais. C'était donc le changement climatique et la question d'après, c'était donc les risques naturels. C'est beau.
Du coup, le risque naturel.
Alors, ouais, une définition comme ça.
Petite définition.
Voilà.
Alors, un risque, c'est trois choses. C'est un aléa, du coup un événement comme un caillou qui tombe, une avalanche, un glissement de terrain, une crue. À ça, il faut qu'il y ait un enjeu, du coup par exemple une maison, une route ou un enjeu humain, et une vulnérabilité. Par exemple, s'il y a un caillou qui tombe, qui est une maison mais qui a un pare-bloc, que le caillou il s'explose contre le pare-bloc, il n'y a pas de risque.
Yes.
Là, le risque a été prévenu.
C'est clair.
Et du coup, la gestion des risques, c'est primordial pour les territoires et ça va devenir de plus en plus, surtout pour les territoires de montagne, parce que ce qui se passe, c'est qu'on construit de plus en plus. L'espace, il n'est pas infini.
On
construit un peu partout et il y a une augmentation de l'aléa, justement à cause du changement climatique. Une augmentation de l'aléa, dans quelle proportion, on ne sait pas trop, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. On n'a pas assez de recul scientifique pour analyser la chose, mais on se doute très très fortement que l'augmentation des aléas est corrélée au changement climatique.
Ah, mais il faut bien que les promoteurs construisent, ils vont te dire.
Mais sauf que du coup, la gestion de ces risques, la gestion de ce qui va tomber sur les maisons, ça va être l'enjeu primaire des territoires, parce qu'eux, ils mettent en place des programmes pour gérer tout ça, des plans de prévention des risques, des zones, une classification des zones qui sont en danger ou pas, des systèmes d'alerte pour les populations en cas de crue, etc. Ça devient vraiment sophistiqué, mais sauf qu'on n'est on pas encore prêt à ça. Les Suisses, par exemple, ils sont vachement d'avance là-dessus. Typiquement, il y a eu à Bondo, là, en Suisse, il y a eu, ça c'est un énorme événement, hein. Mais c'est... À cause du permafrost, il y a eu une chute de bloc qui est tombée dans un bassin versant avec plein d'eau. Ça a fait une énorme lave torrentielle, ça a englouti une ville, la ville de Bondo, justement.
D'accord.
C'était le Pit Saint-Gallo.
C'était quand ça? Moi, j'ai pas vu ça.
C'était en 2010.
Ah, donc récent quand même.
2017-2018.
Ok.
Ouais, c'était récent, il y a deux ans. Il y a eu un. Bon, alors, j'ai pas le. Là, comme on prend de cours, j'ai pas le volume exact. mais c'était 300 000 m3 peut-être. Bon, j'ai peur de dire une grosse connerie.
Pas grave, on va vérifier.
Faut faire un fact-checking.
Dis-le en français, bon sang.
Ils vont vérifier la source. Checkage de faits.
Non. D'arriver à rigoler encore avec ce genre de choses.
Et du coup, oui, ça c'est des événements. Et du coup, le village a été englouti, mais le système d'alerte était tel, parce que c'était monitoré. Bondo, Bondo. Il est en train de
googler. Je suis en train de googler. Vas-y, mais regarde ce que je fais.
Et du coup, oui, c'est le système d'alerte tel qu'il y a eu. À part, bon, il y a eu au niveau du village, il y a eu aucun mort. Après, oui. Sauf qu'il y avait des randonneurs qui se trouvaient sous l'écroulement. Du coup, eux, il y a eu des décès à cause de
ah
ça.
Ah ouais, d'accord.
Mais par rapport à la prévention du système d'alerte au niveau du village, alors que le village a été englouti, hein, vous pouvez googliser
les images. Ah ouais, les images sont incroyables.
Et bah, il y a eu qu'un. Ah, et du coup, on en revenait au risque. Et typiquement, le risque, on peut parler de risque pour des événements. On peut comparer deux événements, qu'il y en ait un où il y a un risque, bien qu'il soit, en termes d'ampleur, vraiment inférieur. Par exemple, un écroulement de 20 mètres cubes, s'il est au-dessus d'une habitation,
oui, bien sûr, oui.
Et bah, ça va engendrer un risque. Ça va être un aléa qui va engendrer un risque. Alors que, par exemple, l'écroulement de l'éperon de Tacona, le 24 novembre 2018, 55 000 mètres cubes en plein massif du Mont-Blanc, il n'y a pas eu de risque.
Rien.
Sauf s'il y avait des alpinistes en dessous. Mais ça, c'est autre chose. Parce que bon, on peut pas monitorer tout le monde. Mais voilà, et c'est assez fou. Et c'est là aussi que... voilà, là, on rentre dans tout, mais la médiatisation de ces événements, elle est assez folle. Parce que on prend par exemple la Raide des Cosmiques à Chamonix, qui est une course d'alpinisme vraiment classique, souvent faite comme première course d'alpinisme. Du coup, on part de l'Aiguille du Midi, on descend au Refuge des Cosmiques, et ensuite, on remonte la Raide des Cosmiques pour arriver, retourner à l'aiguille. En termes de difficulté, ce n'est pas une des courses les plus dures. Elle est accessible avec un guide ou avec quelqu'un qui s'y connaît, un bon encadrement. Du coup, ça peut être une course d'initiation. Mais il se trouve que le 22 août 2018, il y a un écroulement à ce niveau-là. 200 à 300 mètres cubes de roche qui tombent. Sauf que c'est une des courses emblématiques de Chamonix. Tout le monde en a parlé. C'était « Waouh, les montagnes s'écroulent ».
Alors, ça s'est fait ou pas ?
C'était 200 mètres cubes comme écroulement. C'est rien.
D'accord.
Quand on y pense. Après, c'est symptomatique des changements en cours, c'est symptomatique de la fonte du permafrost, c'est symptomatique de la déstabilisation des montagnes. D'ailleurs, l'aiguille du Midi, elle tient à cause du permafrost, du coup, elle est monitorée comme jamais. Enfin,
il y a un truc dessus pourtant.
Il
hein.
y a un truc qui dit. Et c'est pour ça qu'il pétoche. Hein.
Ah bah,
mais l'aiguille du Midi est ultra. Enfin, avant qu'il se passe un truc, on le saura.
Ah mais ça arrive sans prévenir, c'est normalement. Non,
non, mais c'est, en fait, il y a des extensomètres. En fait, il y a plein de capteurs. L'aiguille du Midi, elle est bourrée de capteurs. Il y a des extensomètres dans chaque fissure. Et si au moment où la fissure, elle bouge, tous les scientifiques sont au courant. Du coup, on saura. S'il se passe un truc, normalement, on le saura. Enfin, c'est sûr même qu'on le saura.
T'as gagné, j'y vais pas. Voilà.
Mais du coup, ce que je disais, oui, c'est que cet arrêt des cosmiques qui s'écroule, c'était tous les journaux en ont parlé. C'était la fin. Enfin, les montagnes s'écroulent. D'ailleurs, c'était très bien parce que ça a permis de remettre en avant le changement climatique.
Et puis, on savait pas que les montagnes s'écroulaient aussi.
À côté de ça. Il y a des écroulements dans le massif, des écroulements dans le massif du Mont Blanc qui sont, c'est ce que je disais tout à l'heure, les ponts de Tacona le 24 novembre, 55 000 mètres cubes par rapport aux 300 mètres cubes.
Ouais, c'est peanuts.
Et ça, ça va être de plus en plus récurrent. Et sauf que le permafrost, toutes ces montagnes maintenues par le permafrost, même si on en revient au fameux si on stabilisait maintenant, le permafrost, il continuerait à fondre. Maintenant, c'est foutu. Enfin, ça va fondre et il va y avoir de plus en plus d'écroulements, il va y avoir une déstabilisation. Et c'est ce dont on parlait aussi avec le refuge du promontoire dans les écrins tout à l'heure. La Meije qui s'écroule en 2018, l'été 2018, il y a une partie de la Meije qui s'écroule. Et ça, clairement, c'est le changement climatique, puisqu'il y avait un éperon rocheux qui était ancré dans le glacier, dans son écrin de glace. Le truc, il était là depuis des milliers d'années. Et là, hop, il s'effondre. Et du coup, maintenant, l'ancienne voie normale de la Meije est complètement exposée aux chutes de blocs. Du coup, il y a toute la problématique de quelle voie utiliser. Ils sont en train d'essayer d'ouvrir une nouvelle voie. Sauf qu'ouvrir une nouvelle voie, ça présente une difficulté de plus en plus importante, puisqu'on a des pas en 6, etc. Alors que c'était déjà pas facile. Hein, la voie normale de la Meije était déjà pas facile. Maintenant, pour éviter complètement les zones dangereuses, on a des pas en 6, ça devient compliqué. Le bureau des guides de la Bérarde, il se pose vraiment la question de savoir comment pérenniser cette voie, parce que c'est un des sommets, c'est le sommet emblématique des écrins quasiment.
Et ben on va en parler justement de l'impact économique de ce réchauffement climatique accéléré. Je crois qu'en fait, c'est ça aussi qui va pas. Faut dire accélérer tout le temps. Parce que sinon, il y aura toujours des gens pour dire, mais ça s'est déjà réchauffé et tout ça. Et je pense que, ouais, voilà, réchauffement climatique, mais accéléré dû à l'être humain, à l'anthropocène, ça y est, c'est comme ça qu'on l'appelle. Maintenant, de toute façon,
ouais, c'est ça.
C'est l'anthropocène. Donc, on va parler justement de on va essayer de faire un peu de prospectivisme. C'est ça qu'on me dit. On va voir comment ça va se passer dans le futur, vu que la montagne n'est plus sûre. Hein, quand même, se casse la figure. Voilà, donc on en parle juste après Thérapie Taxi. Voilà, c'est avec Tazouz sur RKS. On revient juste après.
On n'est pas le seum, fais-moi la bise. Ce soir, c'est sûr, elle est conquise.
Papier, ciseaux, avec Tazouz. Entre en solo, c'est moi qui tease.
J'arrive dans la pièce, t'es en susu. Ta meuf est trop bonne et j'ai trop bu. Jean, cocktail et costume bleu. Regarde amour, regarde feu. Tu paniques, t'es en nage et t'es perdu. Elle a lâché ta main dès qu'elle m'a vu. Luxe, hôtel et chambre sur mer. Je vis dans ses rêves, loin de ton cœur. Ta meuf est trop douce, je veux son nectar. J'ai senti la coco, c'est que c'est trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. La gourmandise se voit dans ses deux yeux. Elle passe encore une main dans ses cheveux. Tu parles encore de toi, tu la saoules. Tu peux dire adieu à son boule.
N'est pas le seum, fais-moi la bise. Ce soir, c'est sûr, elle conquise.
Ma bouche à s'élève, je rêve de ça toute la nuit. Six ans dans mon dos, j'ai suivi toutes ses envies. Elle monte dans la fièvre, j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre, j'ai cramé tous ses rêves.
J'arrive dans la pièce, tu l'as perdue. J'étais dans la chambre et t'as rien vu. Puis j'ai vu ta goutte toute fraîche. Capter le balancement de ses fesses. Ta meuf sera ma queen pour une nuit. Je vais la gâter fort dans le lit. Comme une aventure où t'es pas là. Comme un plan à trois, un peu sans toi.
Ta meuf est trop douce, je veux son nectar. J'ai senti la coco, c'est que c'est trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. J'enlève sa culotte avant l'excès. Elle est déjà trempée, elle a plus pied. On t'a encore perdu dans la foule. Si tu l'entends crier, c'est qu'elle mouille.
Papier, ciseaux, avec ta zouze. Entre en solo, c'est moi qui tease.
Ma bouche à s'élève, je rêve de ça toute la nuit. Six ans dans mon dos, j'ai suivi toutes ses envies. Elle monte dans la fièvre, j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre, j'ai cramé tous ses rêves.
S'amuse, c'est sûr, tout doux avec moi. Laisse-la un peu toute nue dans mes bras.
Elle me dit qu'elle n'a jamais fait ça. Je lui souris, lui montre la voie. Adieu, l'amour se fera sans toi. Adieu, Tazouz, salira les draps. Adieu, l'amour se fera sans toi. Adieu, Tazouz, salira les draps. Elle monte dans la fièvre, j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre, j'ai cramé tous ses rêves.
Vous passez la soirée sur RKS avec Tazouz, Thérapie Taxi à l'instant et puis S comme sport, ça continue.
RKS, S comme sport.
S comme sport.
Et notre invité est toujours avec nous, Simon.
Alors,
Gérard.
Juste une petite précision.
Ah, ça y
parce
commence.
Que je reçois des textos pendant la pub. J'ai jamais dit que la révolution industrielle c'était 1985. J'ai dit que le réchauffement climatique avait débuté avec la révolution industrielle et qu'on observait une modification des tendances significatives à partir de 1985.
Et c'est exactement ce que tu as dit. Je m'en rappelle comme
voilà,
si c'était il y a tout
coup,
à l'heure. J'aimerais
que les auditeurs prêtent un peu plus attention et arrêtent d'envoyer des textos.
Non,
fast-checker trop rapidement.
Non, mais c'est très bien d'avoir des gens qui nous disent si ça va ou pas. Et moi, je vous dis merci, auditeurs, auditrices d'RKS. On est en direct et vous avez raison. L'avenir du sport de montagne face au réchauffement climatique. C'est le thème ce soir dans S comme sport. Vous le savez, on balaye le sport sous toutes ses coutures dans cette émission. Et ça c'est vraiment une chance d'avoir une émission comme ça en direct dans l'agglomération grenobloise. Et puis, pour celles et ceux qui veulent nous écouter, il y aura le podcast dans la semaine qui va sortir. On va le monter, on va faire ça bien. Ou sur radio-rks.fr, le site diffuse bien sûr la radio en direct.
C'est beau l'internet.
Ouais, c'est réchauffement climatique. Ça aussi, hein. J'ai l'impression des fois qu'il y a pas d'issue. Bref, je vais pas me pendre tout de suite avec le fil de mon micro. On va parler du réchauffement climatique. On a vu que la montagne se casse la gueule, hein, clairement, hein, tout est en train de s'effondrer en France. Parce que c'est bien de parler de plein de choses qui se passent à l'étranger, mais déjà qu'on réagit pas trop. Alors on va essayer de parler de ce qui se passe aussi en France, mais il y a des choses qui se passent à l'étranger. Et c'est Simon Gérard qui nous en parle.
Oui, du coup...
En France, on l'a vu, ça se casse la figure.
En France, en fait, ça se casse la figure partout à des degrés divers.
Et comment va-t-on aller en montagne ou alors est-ce qu'on n'y va plus? Après tout, on peut vivre sans montagne.
Voilà, on va prendre les choses dans l'ordre, hein, parce que là...
Beaucoup de questions.
Là ça part dans tous les sens, je suis perdu là.
Voilà. En plus, il reste poli, c'est beau.
Bâtard.
Ouais, voilà.
Du coup, les pratiques en montagne, il va y avoir une évolution des pratiques. C'est obligatoire. Faut s'adapter. Au niveau de... Là, on va continuer sur l'activité touristique, hein, quelques minutes encore, sur l'activité touristique en montagne, notamment avec l'alpinisme. Mm-hmm.
On va te dire que l'alpinisme, c'est pas pour tout le monde, alors est-ce que c'est déjà, vraiment important?
Ce qu'on observe, avant d'aller sur ces... Ce qu'on observe déjà, c'est qu'il y a un décalage au niveau des courses. C'est-à-dire que les courses qui étaient faisables en août, maintenant elles sont plus faisables en août, et elles sont faisables de plus en plus tôt dans la saison. C'est ce qu'on voit maintenant pour faire de l'alpinisme... on est bien en juin, on est bien en juillet. En août, ça devient vraiment, vraiment dangereux. On va privilégier les grandes courses de rochers sur rochers stables, hein, pas sur rochers permafrostés.
Oui, c'est un beau mot inventé. Mais c'est bien.
On innove.
Ça me
plaît. Écoute. Déjà, il y a ce décalage au niveau des courses. Et ce décalage, il continue. En 2050, en 2060, on va faire un peu... On va se lancer. Hein. Mais l'alpinisme... actuellement estival, eh ben on le fera en janvier-février.
Ah oui, pour que ça tienne.
Pour que ça tienne. Le seul moment où il fera un peu froid. Et de plus en plus, on va délaisser la haute montagne avec le changement climatique. Et on va devoir modifier nos activités. On va beaucoup plus s'orienter vers les activités de moyenne montagne. VTT, escalade de moyenne montagne, canyoning. Mais l'alpinisme, c'est clairement... On va sortir, on sort le gros mot là, sans concession. Élise Lucet, prends garde à toi. C'est en voie de disparition l'alpinisme.
Allez, d'accord, donc j'investirai pas dans une grosse boîte qui vend des,
mais, voilà,
des cordes ça. Et tout ça.
Et il y a notamment les 100 plus belles de Rébuffat. Du coup, c'est les 100 plus belles courses par Gaston Rébuffat, alpinisme de renom s'il en est, qui ont été inventoriées et dont la faisabilité a été testée. Et non approuvé, puisqu'on s'aperçoit que sur les 100 courses, sur les 100 plus belles du coup, les 100 plus belles courses à faire dans le massif du Mont-Blanc selon ce cher Gaston, il y en a beaucoup qui étaient plus faisables.
Ouais.
Et ça c'est un
bel indicateur, c'est vrai.
C'est un chercheur, c'est un très bel indicateur. C'est un chercheur d'Edithème, Jacques Mouret. Edithème du coup c'est un laboratoire chambérien. Qui a travaillé là-dessus, qui a fait sa thèse là-dessus. Et je ne peux que vous orienter vers le dernier article qu'il a écrit dans Montagne Magazine. Du coup, ils ont sorti un numéro
hors série
changement climatique spécial. Et il a un article de 10 pages là-dedans sur justement l'influence du changement climatique sur les pratiques de l'alpinisme. Et oui, voilà. Et du coup, ça modifie ses courses. Bon, je peux moins bien en parler que lui, du coup, je vous oriente vers...
On l'invite.
On peut l'inviter, les Grenoble, de temps en temps. On peut l'inviter et du coup, je vous oriente vers ce Montagne Magazine ou vers sa thèse, hein, qu'il a soutenue brillamment il y a peu. Mais il y a aussi toute la question de l'accès aux refuges, puisque avec tout ce qui se casse la gueule, et les refuges de montagne maintenant, comment on va y accéder, hein,
puisque exactement.
C'est de moins en moins facile. Il y a toute la question des itinéraires aussi en glacé, puisqu'ils vont être de moins en moins faisables, avec des crevasses de plus en plus ouvertes et surtout de moins en moins remplies par la neige, puisque la ligne d'équilibre glaciaire elle va augmenter, c'est-à-dire la ligne où l'accumulation et l'ablation se compensent, du coup, où le glacier est stable. Parce qu'en fait, un glacier, ça fonctionne, c'est un peu comme une balance.
Il a étudié les glaciers, écoutez bien.
Prenez des notes. Du coup, un glacier, c'est une masse toujours en mouvement. Du coup, il faut voir ça un peu comme un escalator qui va vers le bas. Ça flue, ça coule, c'est comme une rivière. Il y a la neige qui tombe en altitude, qui s'accumule, qui se tasse et qui devient de la glace. Cette glace, par effet de gravité, elle s'écoule vers le bas et il y a un moment où la fonte va être plus importante que la glace apportée. Du coup, à partir de cette ligne où la fonte est plus importante que la glace apportée, du coup, où l'ablation est plus importante que l'accumulation, ça va être le glacier, il va perdre en volume à cet endroit-là. Et au-dessus de cette ligne, le glacier il va gagner en volume. si la partie où le glacier gagne en volume, elle gagne en volume plus rapidement que ce qu'elle perd en volume, et ben le volume du glacier va augmenter. Du coup, le glacier va être plus long, puisqu'il y aura plus de glace qui arrivera que ce qui est possible de fondre. Au contraire, si ça fond plus vite que ça n'arrive, et ben le glacier va reculer tout en avançant. Hein. Mais le front du glacier va reculer, du coup, il va diminuer en volume et en longueur. Mais enfin, il faut toujours comprendre qu'un glacier continue d'avancer. Et du coup, il recule en avançant.
C'est un peu. C'est un ouais, il est tout content. Non, mais faire comme de l'eau de roche, une fois de plus, quoi, avec tes expéditions.
Comme de l'eau glaciaire.
Ouais, voilà.
Et oui, et voilà, autre problème avec. Ah, ça, c'est vraiment intéressant, ça.
Y a, mais jusqu'à là, c'était intéressant.
Non, non, mais là, c'est vraiment une anecdote rigolote. Là. Enfin, pas une anecdote, d'ailleurs. C'est vraiment un fun fact. C'est un truc à. En dîner mondain, tu sors ça, bim.
Ah, là,
tout de suite, là, tout de suite, t'attires l'attention.
T'as cassé tout le monde.
Je peux te dire, les gens, ils vont parler de Macron, ils vont parler de Gilets jaunes, toi, t'arrives, tu vas parler de glacier. Alors là, mais c'est après c'est une anecdote à vraiment bien choisir. Enfin, c'est vraiment
faut choisir son public.
Ouais.
Aussi, hein.
Non, mais même parce que après tu peux pas la ressortir tout le temps. Moi, j'essaie de la ressortir tout le temps, mes potes ils en ont marre. En plus, ils connaissent déjà parce qu'ils bossent aussi là-dessus. Non, mais bref. Du coup, il y a deux types de glaciers. Du coup, il y a les glaciers tempérés qui glissent parce que ils sont tempérés à la base. Du coup, ils glissent sur le
plus vite,
sur le substrat. Non, ils glissent sur le substrat rocheux. Like. Et après, il y a ce qu'on appelle les glaciers froids, c'est-à-dire des glaciers qui à la base ont une température inférieure à 0 degré. Parce que c'est pas...
Et ils glissent ou pas?
Oui. Non, eux, ils sont collés au rocher. Et du coup, c'est des glaciers qu'on retrouve en altitude, à partir d'une certaine altitude. Et sauf que, étant donné que les températures augmentent, que l'ISO 0 il est de plus en plus haut, et bah, ces glaciers froids, qui sont collés aux parois, et bah, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Parce que si la température augmente, leur base ne sera plus froide, ils peuvent devenir des glaciers tempérés. Et à ce moment-là, bah, si... Autant s'ils sont à plat, si c'est des glaciers de plateau, c'est-à-dire s'ils sont sur un plateau et qu'ils sont posés à plat, et ben là, il va rien se passer. Si c'est des glaciers perchés, des glaciers suspendus, qui sont collés à une paroi...
Ils vont tomber, il ne faut pas être là.
Et ben exactement. Ouais. Et ça, c'est, on sait, ne sait pas comment ça va
c'est
évoluer.
C'est une grosse problématique,
ça,
en effet. Ouais.
C'est un truc fou. Et du coup, autant... Attends, comment on va organiser ça? Oui, alors, attends, voilà.
Autant, c'est que j'en une musique en attendant que tu réfléchisses.
Je pense à autre voix. Non, mais du coup, le recul des glaciers, bon, ça va modifier ça. En France, ça va modifier ça. En France, il faut savoir qu'on n'est pas non plus totalement dépendant de l'eau issue des glaciers, de l'eau de fond des glaciers. On en a besoin. Ça joue un rôle important dans le cycle de l'eau, mais ça reste une quantité pas si importante que ça par rapport, par exemple, aux glaciers himalayens.
D'accord.
Les glaciers himalayens, c'est 100 000 km de glace. C'est assez dingue.
Carrément, oui.
Ouais, c'est 100 000 km carrés de glaciers, 14 sommets au-dessus de 8 000. Et il y a 10 fleuves majeurs, dont l'Indus, le Gange et le Brahmapoutre, dont dépendent toutes les populations
aux
alentours. Hey. Si il y a plus de glaciers, le cycle de l'eau de ces fleuves, il va être dépendant plus que de la mousson ou plus que de
qui tarde à arriver des fois,
qui va être décalé ou qui va s'accentuer, mais qui est quand même très limité dans le temps. Et du coup,
parce que ça voudrait dire, faudra stocker l'eau de la.
En Himalaya, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de l'eau parce que, enfin, toute l'Inde avait entre la fonte des glaciers. La disparition, qui pour l'instant, comme ils sont plus hauts, va prendre plus de temps. Hein. Les glaciers en Himalaya, ils diminuent environ deux fois moins vite que dans les Alpes.
D'accord.
Mais bon, ils diminuent quand même. Hein. Ça, plus la montée du niveau marin. Bon, ça, je ne suis pas expert là-dessus. Mais il faut savoir que tout le sud de l'Inde est très bas par rapport au niveau de la mer et du coup très sensible à la montée du niveau marin. Entre l'eau qui monte et l'eau qui diminue au nord. Ça va poser ça pose déjà de vrais problèmes et ça va poser de plus en plus de problèmes.
Alors,
et toute l'agriculture dépend de ça. Enfin,
oui, bien sûr. Sans eau, pas de vie.
Et du coup, en fait, ce qu'il faut pas se dire la fonte des glaciers, les montagnes qui s'écroulent. Oh bah ça va juste faire chier les petits alpinistes qui veulent aller faire leur sommet, se balader avec un piolet.
Faire un selfie en haut.
C'est ça, mettre un hashtag alpiniste, hashtag my summit, hashtag summit of my life, ce genre de choses. Mais il y a quand même beaucoup de populations qui dépendent de ça. Et au-delà des populations humaines, il y a tous les écosystèmes qui sont en train d'être modifiés. Je retourne aux Alpes, parce que c'est quand même un sujet que je connais mieux que l'Himalaya.
Tu prends pas l'avion, toi, c'est pour ça.
Mais j'ai lu Tintin au Tibet.
Ah, bon, c'est bon, t'es compétent, alors.
Je sais. J'avais mis ça sur un CV, j'ai failli être engagé par, par le CNRS, mais au dernier moment, ils m'ont posé une question piège, j'étais foutu. Non, mais du coup, j'en étais... Ah oui, ça va modifier les écosystèmes et... De manière, mais pas obligatoirement néfaste. Hein. Il va y avoir une modification des écosystèmes. On va avoir une remontée d'espèces qui n'apparaissaient pas, enfin qui n'étaient pas en altitude, hein, d'espèces végétales. Toutes les zones libérées par le glacier, elles vont être revégétalisées plus petit à petit. Et du coup, ça va être modifié. Du coup, enfin, autant les bestioles qui habitaient en bas, maintenant elles vont pouvoir habiter un peu plus haut, ça va pas trop les déranger. Autant des bestioles qui étaient dans un écosystème en altitude, et ben elles, tout va être chamboulé pour elles et elles vont essayer de remonter. Au bout d'un moment, elles pourront plus remonter. Du coup, il y a des espèces qui vont disparaître. Et pareil pour les espèces qui dépendent de la neige pour nicher en hiver. Il y a tout un tas de modifications biologiques qui c'est pas ça va pas que juste on peut plus skier.
Ah oui, bien sûr. Et on rappelle que c'est parce que ça arrive rapidement. Pas donc, trop rapidement pour que les espèces
s'habituent.
Voilà, s'habituent. Parce que nous, voilà, on va mettre la clim.
Et surtout, ça arrive rapidement. Et c'est forcé.
Ah, ça, c'est le. C'est mon bug antenne. Il est 20h, c'est pour ça, vous écoutez RKS.
On se croise, on repart, on s'éloigne sans cesse. Peut-être est-ce un hasard? Pour un geste, un regard, un sourire qui m'adresse. Peut-être juste illusoire. Si c'est que des plans que je fais sur la comète, je fais la meuf distante direct. Si c'est que du vent, la vie est ainsi faite. Je crois qu'il faudrait que je m'arrête. On projette une histoire qui peut-être ne va nulle part. On se tège, se protège, on s'allège tôt ou tard. De peut-être quelques espoirs. Si c'est que des plans que je fais sur la comète, je fais la meuf distante direct. Si c'est que du vent et qu'il s'en fout en fait, je crois qu'il faudrait que je m'arrête.
Philippine sort de ma tête sur RKS.
RKS, S comme sport.
Alors, vous l'avez vu, ça rigole pas. L'ordinateur a décrété que c'était 20h, il fallait mettre un jingle et une, Et une musique, voilà, c'est l'informatique qui nous sauvera et peut-être aussi nous tuera. Ça, ce sera un autre sujet. Est-ce comme sport, ça continue avec Simon Gérard. Alors, on en était où ? On en était au... Oui, les conséquences. La pratique du sport, on n'y va plus en montagne, si on y va quand même. Mais ça va.
On en était aux modifications des petits animaux.
Des petits animaux, on va s'adapter à tout ça. On avait dit que le réchauffement climatique rapide, accéléré, allait bien sûr embêter la faune et la flore. On en a voyagé un peu, on a été au Népal avec toi, c'est ça ?
On était au Népal.
Exactement.
En Himalaya, on était dans le Karakorum, voilà. Qui est la zone où il y avait plus de glaciers.
Exact, parce qu'on disait que le, c'est en train de fondre là-haut et que les villages en bas ont besoin de cette eau. Alors oui, on va faire, d'ailleurs, vu que tu as parlé un peu de glaciers et de niveau de la mer qui monte d'un côté, ça c'est lié. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que ce ne sont pas les icebergs qui fondent. Ça aussi, c'est triste de les voir se casser la gueule dans les océans. Mais ce n'est pas eux qui font monter le niveau de l'eau.
Je t'arrête tout de suite.
Allez, c'est parti.
C'est les icebergs qui fondent. Les icebergs, c'est déjà quand c'est détaché. C'est des blocs de glace qui sont déjà détachés. Du coup, quand ils fondent, en fait, ça change rien du tout.
Oui, c'est pour ça. C'est pour ça.
C'est quand c'est la calotte glaciaire qui fond. Là, ça augmente le niveau marin. Mais les icebergs, c'est quand c'est un glacier qui est déjà dans l'eau, ça va pas changer grand-chose.
C'est
comme quand on met un glaçon dans l'eau, en fait. Et quand ça fond, ça garde le même niveau.
Et c'est ce que j'expliquais, ça vient.
Ouais, mais t'as dit iceberg.
C'est l'iceberg qui t'a pas aimé. C'est donc bien ce qui les glaciers qui fondent, qui vont dans la mer, dans les océans, qui va faire remonter, enfin qui est en train de faire déjà. Ça a déjà commencé.
Ça a déjà commencé.
À ce sujet, je regardais un petit truc. J'ai regardé la télé, donc déjà ça c'est pas bien. Sur un reportage sur Hawaï, donc ça. Chez eux, c'est en train de monter, c'est clair, parce que les bâtiments, les hôtels ont 100 ans déjà. Donc forcément, ils ont construit les pieds dans l'eau il y a 100 ans, ils étaient contents. Ils mettent des petites murettes, et là, ils sont en train d'arrêter de mettre des petites murettes et des brise-lames parce que les surfeurs ne sont pas contents, parce que ça change le format des vagues. Voilà.
Mais en même temps, c'est quand on surfe, c'est quand même agréable d'avoir des bonnes vagues.
C'est bien d'avoir une planète aussi.
Ouais, mais moi, en tant que surfeur, je peux te dire que, parce que je surfe énormément, j'arrive quand même à faire des take-off sur la plage.
Oh mon dieu. Je mets debout.
Je cours au ralenti sur les plages aussi. Je suis vraiment.
Ah, ça, c'est alerte à Malibu.
Et je peux te dire que moi, cet été, ça a été une grande quête de la vague, hein, parce que chaque fois que je suis allé chercher la vague. Mais même pas, je suis allé, normalement, il y avait des vagues. J'ai pas trouvé de vague, du coup. Je suis assez tatillon sur le sujet de la vague, du coup.
Je ne t'embête pas avec ça.
Si on peut, même en abîmant un peu la planète, avoir des vagues, et ben moi je suis.
Mais
pour.
C'est ce qu'on est en train de faire.
Voilà.
Bon, c'est de l'ironie, vous le comprenez bien. Hein, c'est un homme qui travaille pour qu'on arrête toutes ces bêtises. Alors justement, on va en parler, puisqu'il nous reste 23 minutes, même pas d'émission, avant que l'ordinateur devienne fou et lance une autre musique. Surtout qu'il y a quand même une émission après nous. Et Blue Jazz a été sympa, Bluesy, il commence 30 minutes après nous, donc voilà, 22 minutes pour parler des solutions, parce que là on était dans le factuel, t'as sorti plein de chiffres avec entre autres leur série de Montagne Magazine, voilà, t'as avancé pas mal de choses, maintenant, solution, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que nous on veut vraiment changer le cours de l'histoire.
Alors...
Là en sortant du studio, et même les auditeurs, auditrices, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à prendre des selfies, on achète des chaussures chinoises, on fait le tour du monde pour faire des trails.
Il n'y a pas de solution miracle, déjà, c'est ce qu'il faut dire. Après, il y a deux choses. C'est qu'une, de un, il n'y a pas de solution miracle. Et de deux, il ne faut pas être collapsologue. On peut
explique
encore...
ce que c'est, l'effondrement.
La collapsologie, oui, c'est collapsologie.
Il parle anglais.
C'est la théorie de l'effondrement. C'est-à-dire que dans 20-30 ans, l'économie, elle fait un boom et on revient à l'âge de pierre. Ça, c'est pas vrai. Enfin, on a les moyens de s'en sortir. Là, les chercheurs, ils le disent.
Est-ce que c'est ton avis, t'es optimiste ?
On peut s'en sortir. Oui, il va y avoir des dégâts.
Ah, bien sûr.
Oui, il y a déjà des dégâts. En allant jusque-là, oui, il y a déjà des gens qui meurent à cause du réchauffement climatique.
Bien sûr, oui.
Mais c'est pas la fin de l'humanité. Il y a encore des solutions. Après, moi, personnellement, je ne les ai pas, ces solutions. Mais ces solutions, elles passent. Là, je parle vraiment que pour moi. C'est pas.
Oui, bien sûr. Vas-y.
Mais elles passent par une volonté politique. Une volonté politique pour qu'il y ait un changement politique, ça doit passer par un changement des mentalités, puisque de toute manière, s'il y a un changement, ça viendra de la base. C'est la lutte des classes. On est plus nombreux. Si on veut que les politiques changent, il faut que le peuple, avec un grand P. Vraiment.
Mais
là, c'est pour.
Il arrive même plus à être sérieux.
J'essaie d'être sérieux, mais je le pense vraiment. Le peuple, avec un grand P, doit se mobiliser. Et seulement comme ça, on arrivera à faire bouger les choses. Et les choses bougent déjà. Enfin, il y a tout le monde est
de plus en plus... Il y a des initiatives, c'est mignon, moi, ce que j'ai envie de te dire, voilà. C'est mignon, mais c'est pas assez, clairement.
Les gens se préoccupent. Enfin,
c'est, ils se préoccupent, mais...
C'est le plus important.
On continue à mettre notre cul dans l'avion, on continue de...
Effectivement.
De vouloir une plus grosse maison, de mettre la clim.
Non, mais c'est sûr, mais c'est... Et c'est un paradoxe. Et après, faut agir en conséquence. C'est choisir... mais c'est... Enfin...
Mais personne ne s'auto-limite. Non, si on pouvait rouler à 200, on roulerait tous à 200. Heureusement qu'ils ont mis 130.
C'est pas dit. Mais je pense que on dit que les petites, enfin, on dit que les petites actions ne servent à rien. C'est faux, parce que même si le tri c'est qu'un geste, ça montre qu'on est préoccupé. Je prends le tri, mais je peux prendre le covoiturage, prendre le train, ne pas prendre des vols intérieurs, parce que évidemment, enfin, je comprends sûr. Que les gens ils veulent aller en vacances, enfin que les gens qui en ont les moyens, ouais. La classe supérieure, privilégiée, riche, veuillent aller à New York, veuillent aller à l'autre bout du monde pour voyager. Qui est-ce que je serais pour leur dire ne le faites pas? Mais parce que moi aussi j'en fais.
Mais ils comptent devenir riches aussi, c'est pour ça.
Ça c'est mal barré. mais oui, mais sauf qu'à mon avis c'est plein. Enfin, faut avoir conscience de ce qu'on fait. Par exemple, se dire là où je peux aller en train, même si ça prend plus de temps.
Non, mais on n'a plus le temps maintenant. Tu le sais.
Et oui, et c'est pour ça qu'il faut réapprendre à vivre lentement.
Parce que, ouais, voilà.
Et ça c'est important.
Low tech, low food, c'est un peu des mouvements qui arrivent, enfin qui arrivent.
De toute façon, toute l'histoire là de la réduction de la viande, le covoiturage, ça se développe vachement.
Ouais, bien sûr. Entre temps, il y avait quand même beaucoup de trottinettes électriques dans les grandes villes.
Après,
c'est le paradoxe. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aussi, ça consomme, ça pollue.
Netflix,
c'est
en plein boom, et ça, c'est ce qui pollue plus.
Mais ça, c'est dramatique.
Enfin, franchement, j'ai pas les solutions là-dessus. Je pense que ça passe par une prise de conscience que chacun doit se demander.
Et dans le sport, on fait comment? Parce qu'on aime la montagne, mais on habite en ville. Donc il y a forcément un moment, on prend la bagnole. Et
ouais. Bah, là, dans le sport, par exemple, c'est de se dire je vais pas au ski si je suis tout seul dans ma voiture.
Ah voilà, donc là c'est déjà une première mesure. Non, mais c'est pas mal de dire ça. Après, il y a déjà des plateformes qui existent, hein, justement pour aller au sport en covoiturage, parce que ça veut dire qu'il faut quand même plus de place, parce qu'il faut mettre peut-être 2-3 personnes avec des paires de skis. Donc il y a quand même, il faut s'organiser. Mais voilà, ce que tu dis, c'est pas mal, ça peut être ça. Ne vais pas au ski tout seul.
Et puis après, au niveau politique, ça pourrait être de développer les transports en commun vers les stations. Parce que pour l'instant, par exemple, quand on regarde les stations, il y a un bus le matin, un bus le soir.
Ah, il faut pas le rater, ouais. Ouais, mais ça. Là, il faut tomber au bon moment.
Mais
développer
les transports en commun qui montent et choisir le covoiturage et se dire aussi, typiquement en fond, que en fait, quand on farte, on met du fluor sous les skis.
Ah oui, on n'a pas parlé de ça, c'est vrai.
Pour aller plus rapidement. Mm-hmm. Est-ce qu'on a encore envie d'utiliser ça? Le but, c'est de la performance toujours plus loin. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça, ou est-ce qu'il ne faudrait pas se dire, certes, on ira moins vite, mais si tout le monde va moins vite, au final, ce sera toujours le meilleur qui gagne.
Ouais, mais...
Après, c'est une partie technique.
Voilà, qui va vouloir aller moins vite, de toute façon. C'est le problème.
Il y a plein de questions à se poser. Hein.
Donc, on va continuer d'aller en montagne, on fera plus attention, les courses vont être décalées, on arrête...
Attention. Je vais sortir la phrase bateau. Essayer d'être en phase avec la montagne.
Oh, c'est beau. C'est philosophique.
Ça mériterait un hashtag sur Facebook, Instagram.
C'est vrai, d'ailleurs, on a Facebook, Instagram maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre RKS sur Facebook et Instagram. On est des Jones. On met pas trop de trucs dessus parce qu'on veut pas polluer un peu plus les réseaux. Mais...
Non, mais pareil,
on est là.
C'est tout con, mais au bureau, chaque fois qu'on envoie un mail, il faut se dire est-ce que c'est utile. Après, c'est des mesures. Enfin, là, on divague.
Oui et non, parce que est-ce qu'on a. Tu vois, dans les courses, on voit une course à Grenoble, par exemple, on voit que ça vient de la France entière. Alors, est-ce que là, il faudrait pas... Est-ce qu'on a besoin de faire 20 km à Grenoble alors que ce sont les mêmes ailleurs, quoi? Là, je lui pose la question, il a fait les bras en l'air, il sait pas quoi dire. J'ai réussi à le faire taire, c'est incroyable. Non, ça, c'est autre chose, mais...
Fais gaffe, tu vas recevoir des textos pour savoir comment t'as fait. Non, mais oui, c'est réfléchir à ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire une course à l'autre bout du monde ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'aller faire un... Mais c'est surtout, je pense, avant de chercher à l'autre bout du monde, c'est chercher à côté de soi. Enfin,
parce qu'il y a des trails toutes les semaines, j'ai envie de dire.
Est-ce qu'on a besoin de prendre l'avion pour aller par exemple faire une course en Espagne, alors que on prend une journée, ça fait une journée de voiture, une journée de train, mais c'est pas... Non, mais c'est clairement, il y a beaucoup de questions à se poser, on n'a pas totalement les réponses, mais Faut qu'on change nos pratiques. On peut plus faire les choses comme on faisait avant, à consommer.
Bah disons que pour l'instant, l'énergie est tellement à prix accessible. Un plein d'essence, gazole, c'est 50 balles.
Il y a une augmentation de 7% du gaz cette année. Je veux pas dire, mais moi, je l'ai senti sur ma facture.
Ah ouais, mais
excuse-moi de pas être aussi aisé.
Non, mais alors clairement, même si l'essence était à 3 euros le litre et ton gaz à 15% plus cher, bien sûr qu'on l'achèterait. Parce que déjà, on sait pas faire autrement. Et en plus, c'est tellement plus facile. Et puis, c'est le confort, c'est ça, c'est facile, c'est le confort. Ouais. Donc ça, c'est clair que ça changera pas.
Et puis une journée de poudreuse là, comme on a connu il y a quelques jours avec la chute, tout le monde est monté en voiture. Je suis sûr qu'il y a la moitié des voitures qui étaient vides.
Qui auraient pu covoiturer, ouais, c'est sûr.
Et après, c'est des choses qui doivent se mettre en place, des initiatives qui doivent se mettre en place. Et mais ça se met déjà doucement en place, mais faudrait que.
Et est-ce que dans l'événementiel, il n'y a pas des économies aussi à faire au niveau, est-ce que les courses ont besoin d'être aussi longues? Est-ce qu'on a besoin d'être aussi nombreux? Parce que ça veut dire plus de matériel, c'est-à-dire plus de bénévoles, il y a plus de monde qui piétine la montagne ou qui se rendent aussi. Donc est-ce que les courses doivent être aussi...
Est-ce qu'on doit avoir des t-shirts à la fin des courses? Est-ce qu'on doit faire les courses pour avoir une veste finisher que personne ne va jamais mettre?
Oui, en pyjama, il y en a qui y mettent quand même.
Ouais, enfin,
non, mais c'est vrai.
Ouais, bah c'est...
Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. En plus, des t-shirts que, oui, au final, on n'a pas vraiment besoin.
Il y a des gens qui se déguisent en chenilles aussi.
Ouais, c'est voilà. Mais non, après, il y a pas mal de choses à repenser sur ce sport en montagne. La montagne qu'on aime beaucoup et on l'a vu pendant 7h30 d'émission qui se fragilise, qui est en train de tomber, hein, tout simplement. Alors après, économiquement, est-ce que les stations de ski font quelque chose alors?
Alors, au niveau des stations de ski, il y a un développement. Il y a un développement de l'offre. On a du VTT en été, on a des découvertes de la montagne en partenariat avec des AMM, du coup, des accompagnateurs moyens de montagne.
Ils commencent à ouvrir un peu le spectre plus que l'été.
Ils sont obligés économiquement. Après, ce qu'il y a, il y a un gros frein, c'est que, et ça, c'est du vécu, on va voir les gens en station. Et les entrepreneurs, hein, ceux qui louent des chalets pour le ski, ceux qui s'occupent des remontées mécaniques, ils veulent pas entendre, ils disent mais le réchauffement climatique ça n'existe pas, moi aussi j'ai déjà connu des années sans neige. on va mettre des canons et ça va aller. Il y a une telle manne financière autour du ski que les gens ne veulent pas voir, et c'est souvent ils nient en bloc le changement climatique. Enfin, moi, c'est du vécu. Hein,
ouais, je sais.
On leur donne, je suis devant la personne, on lui montre les graphiques, on lui montre tout, et elle te dit bah, mais non, le changement climatique n'existe pas, moi je vais continuer. C'est même
insultant,
c'est bah, tant qu'il y en a qui payent, moi je continue.
Ouais, c'est ça.
Ouais, d'accord.
Alors, c'est qui est bizarre d'ailleurs, parce que si c'est l'argent qui les motive, autant ouvrir toute la saison.
Sauf que par exemple sur une saison de ski, 95% du chiffre d'affaires d'une station, l'été, ça ne rapporte rien. Ils continuent pour attirer le touriste parce que ils veulent justement créer
prendre
un tourisme,
le virage
festival,
aussi,
oui, prendre le virage et petit à petit développer l'attrait de la montagne l'été, mais ça rapportera toujours beaucoup beaucoup moins que l'or blanc.
Oui et non, parce qu'il fait tellement chaud en montagne qu'on commence déjà à entendre des gens dire oui, on va aller en montagne l'été. Il fait tellement chaud en bas que les gens veulent aller en haut, pour l'instant en tout cas.
On l'entend.
Parce qu'on perd quelques degrés, peut-être pas en journée, mais je sais que la nuit, il y en a qui dorment beaucoup mieux quand ils vont à Lens-en-Vercors.
Statistiquement, attention. Quand on fait des statistiques,
ouais.
L'adverbe qui va avec le mot statistique,
voilà.
C'est pas si prouvé que ça. Les gens ils vont encore beaucoup à la mer et la montagne.
Ah oui,
montagne,
on les voit encore sac bikini, c'est sûr.
La montagne comme zone de fraîcheur. Ça amène pas tant monde que ça au final.
Alors est-ce que ça va se développer, le futur nous le dira. Parce qu'en fait c'est ce que j'avais comme tendance autour de moi.
Les villes ça devient vivable, hein, l'été, on va pas se mentir.
Et voilà. Enfin, on va pas tous mettre des climatiseurs.
Clairement pas non. On n'est pas tous au Qatar. Hein.
Non mais oui c'est ça, mais surtout que la clim au final n'est pas une solution parce que
c'est pire encore.
Ben, j'ai vu qu'à Phoenix, la petite ville aux États-Unis, ça faisait monter la nuit, la température la nuit, à de 1 à 2 degrés. Les climatiseurs qui soufflent, c'est hallucinant. Mais la clim, c'est pas la solution, ça veut dire prendre de la hauteur peut-être.
C'est comme si quand t'as une crampe au pied, tu te coupes la jambe. Quoi.
C'est radical, ouais, c'est sûr.
C'est beau.
Il nous reste 12 minutes pour la conclusion, cher ami, sur les que faire dès maintenant. Donc ça, on a des vagues idées.
Moi, je suis pas habilité à répondre là-dessus.
Voilà. Oh, non, mais ça aurait pu être des envies personnelles.
Des envies personnelles,
mais
c'est ce que je dis, c'est essayer de de changer, de pas être aussi consommateur qu'avant. Mais typiquement, hein, le de se dire, quand on est skieur, de se dire je vais pas au ski si je suis tout seul dans ma voiture. Ça,
est-ce qu'on tiendra?
Ça fait sauter les jours de ski. Hein.
Eh ben, c'est ça le truc. Alors, est-ce qu'on est prêt à ça, sachant qu'on est dans un monde et on est des êtres très égoïstes, hein, et puis voilà, il n'y a pas même plus à prouver. Internet, les réseaux sociaux le confirment tous les jours. Donc, ça va être très compliqué de changer nos habitudes. Pour tout te dire, à part la hausse très forte du pétrole, moi, je ne vois pas ce qui peut changer notre. Nos habitudes d'aller randonner tout seul en pleine journée alors que t'as une journée de pause, d'aller faire du ski tout seul. Donc voilà, qu'est-ce qui changera? L'avenir nous le dira. Une chose est sûre, monsieur, on a parlé des pratiques.
Une chose est sûre, c'est que le changement climatique est réel.
Est réel, voilà, accéléré.
Accéléré,
réel. Réel que tout le monde va en pâtir, qu'on en pâtit déjà, mais bon, France, on a un peu de la chance malgré tout, les montagnes qui s'écroulent, malgré l'eau qui est des rivières, on a quand même de la chance parce que on le voit de loin, mais le jour où ce sera plus près, peut-être qu'il y aura une meilleure prise de conscience.
Elle est en cours, franchement, la prise de conscience.
T'es un petit peu optimiste, toi, c'est beau.
Non, mais je suis tout sauf optimiste, mais je pense qu'elle est en cours. Faut que ça s'accélère, mais elle est. Enfin, maintenant, il y a de moins en moins de climato-sceptiques quand même. Il y en a encore certains. Mais c'est...
Bon, alors, et en tout cas, ils n'ont pas la parole. Et ça, c'est déjà très très bien. Parce qu'on ne voit plus des émissions où il y a un gars qui démonte.
Ou sinon sur Touche pas à mon poste, là, un truc des conneries comme ça. Mais ça, de toute façon.
Ah, on connaît pas. Non, mais ça, c'est interdit.
C'est interdit.
Ça. Bon, alors, on est d'accord.
Ça peut être légiféré, ce genre de choses.
Exactement. Vous êtes sur RKS, on est en direct dans l'émission Escom Sport. On vous invite à venir nous parler sport, votre sport, et on pourra en plus élargir, vous le savez, l'émission. Comme là, on a parlé pendant une heure et demie de l'avenir du sport de montagne face au réchauffement climatique accéléré. L'émission sera disponible sur le podcast, sur le site internet radio-rks.fr. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux également pour suivre toute l'actualité de la radio locale grenobloise, puisqu'on est mis sur toute l'agglomération grenobloise. On va jusqu'à Vif, jusqu'à Voreppe, on va jusqu'à Brignoux, je crois, voilà, dans le Grésivaudan. Donc n'hésitez pas. Pour l'heure, on va se quitter en musique. Vous avez 9 minutes avant de retrouver l'émission Blues de Bluesy. Pour l'heure, musique. Alors qu'est-ce qu'on va leur mettre comme musique? Ça, c'est une bonne question. Allez, moi je. Tomber du ciel, Jacques Higelin. J'aime bien, tu vois, c'est en rapport avec ce qui se passe à la radio.
Tomber du ciel, c'est ce que va faire la neige bientôt, on espère.
On l'espère. Un mot d'adieu, Simon Gérard. Merci Simon.
gardez espoir et poussez fort sur les bâtons.
Et ben, voilà, Jacques Higelin sur RKS, on souhaite une excellente soirée.